Ok, super. Eh bien, je vais commencer. Du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc la plupart d'entre vous. Je suis Florent Cholin, doctorant de l'Occitane, doctorant en géographie, entre l'UMR-PACT, donc à Grenoble, Côte Marina, et l'Université de Milano Bicocca en Italie, département de sociologie. Je vais faire une présentation sur une première approche de la dépendance liée à l'âge en montagne, entre adaptation et innovation et réponse collective. L'idée, c'est qu'on a interrogé un petit regard enfin, la durabilité d'un modèle de maintien à domicile des personnes âgées, sur un truc comme ça. Donc, je suis en première année de thèse. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les premiers bribes de mon travail. Bon, je pense que je reviendrai les années prochaines, on verra, vous présenter la suite. Alors, petit rappel de circonstances. Parce qu'on parle de même chose quand on parle du vieillissement. Moi, je fais un petit rappel assez rapide. Le vieillissement, c'est quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'on vieillit tous, enfin, c'est pas un truc de vieillard, on vieillit tous à partir du moment où on a passé la puberté, là, on entre dans une phase dégénérative où on va progressivement perdre de la force jusqu'au moment où on va mourir. D'accord? Donc c'est pas un phénomène très, très spécifique pour le vieillard, c'est universel et ça marche pour tout le monde. Il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on vieillit pas tous de la même façon. C'est-à-dire qu'on va vieillir plus ou moins vite et plus ou moins en plus ou moins bonne santé. D'accord? Pour ça, en fait, ça va être principalement les effets environnementaux, c'est-à-dire comment on s'alimente, comment on fait du sport, comment le contexte dans lequel on vit, qui vont avoir une influence là-dessus. Et du coup, l'ambition qui a été posée par les Nations Unies à travers l'Organisation Mondiale de la Santé, ça va être de bien vieillir. Donc nous, l'idée, c'est de réfléchir comment on peut intégrer ce bien vieillir dans les politiques publiques. Donc, le vieillissement comme facteur de vulnérabilité. Je vais vous parler d'abord, on va faire un petit regard sur plusieurs disciplines pour parler du vieillissement. Vu par un médecin, le vieillissement, c'est l'avancée en âge qui correspond avec une vulnérabilité physiologique qui s'accompagne d'un déclin des fonctions internes de l'organisme, ce qui engendre en outre une diminution des fonctions motrices et une difficulté croissante, excusez-moi, à exercer les tâches de la vie quotidienne. Grosso modo, plus on vieillit, plus c'est difficile de faire les mêmes petites tâches. Le top, c'est 20 ans, et puis après, ça se dégrade. C'est très basique, mais ça aide à comprendre les choses. Vu par le psychologue, le vieillissement, c'est un phénomène de vulnérabilité qui va nous rendre en fait plus vulnérables aux psychopathologies. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on va être vulnérable à l'angoisse, à la dépression, et plus on sera fragile sur un plan psychologique. Vu par un sociologue, le vieillissement, c'est. Ça se voit très très bien sur une pyramide des âges. C'est une plus grande vulnérabilité au risque d'isolement. C'est-à-dire quand on est en pleine sociologie du vieillissement, c'est que vous voyez bien sur le sommet de la pyramide des âges, plus on va vieillir, moins on aura de collègues du même âge, plus on sera seul. D'autant plus que le décalage entre les hommes et les femmes fait qu'on arrivera plus vite dans l'étape du vieil âge et des temps de suite est de plus important. Voilà, je suis géographe, donc vu par le géographe, le vieillissement des populations, on peut considérer ça comme un défi pour les territoires de montagne ou pour tous les territoires. Là, je vous ai mis les chiffres pour la France. Donc en France, c'est 340 milliards d'euros qui sont consacrés à la perte d'autonomie chaque année. Enfin, pas sur 340, 34 milliards d'euros, c'est déjà pas mal. C'est des sommes absolument dingues. Dans le monde entier, ça coûte une fortune. Et pour ça, la logique des politiques publiques a été depuis longtemps de favoriser le maintien à domicile de ces populations. Et du coup, pour maintenir à domicile ces populations, l'idée c'est qu'on va être obligé de faire graviter un certain nombre de services vers ces personnes-là et du coup d'engendrer un certain nombre de mobilités inversées. Donc c'est ce qu'on a cherché à étudier en partie. Et là, ça va être plusieurs millions de kilomètres, donc en impact carbone, en impact environnemental, c'est important. En France, ça peut paraître dingue, mais c'est quand même 440 000 personnes qui sont dans le système d'aide à domicile. Donc ça représente quand même un enjeu assez important. Je vais illustrer ça par un petit exemple. C'est l'exemple d'une femme qui vit dans le parc des Écrins, donc un peu plus loin pour ceux qui connaissent pas la région, c'est à 2 heures d'ici. C'est une femme qui est en catégorie GIR3, donc c'est une personne qui a besoin d'une aide à domicile plusieurs fois par jour. C'est une personne comme ça. On a étudié sa vie quotidienne et l'impact qu'elle avait sur les économies et sur l'environnement. On s'est rendu compte qu'elle toute seule, ça coûte 5 500 € par mois pour le maintenir à domicile. C'est 2 700 km de mobilité, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les personnes, tous les aidants qui venaient la voir tous les jours pour savoir comment elle faisait pour nous, et ça représente 2 700 km. Pour donner un ordre d'idée, c'est pratiquement 3 fois ce que fait un Français moyen pour se déplacer. C'est 12 personnes qui viennent vers elle. Donc on peut très loin de la dépendance sur les territoires. Et ce qu'on va voir, et ce que je vais essayer de vous montrer après, c'est qu'on ne peut pas considérer ça que comme un défi, on peut aussi considérer ça comme une ressource, et notamment pour les territoires de montagne. Donc les spécificités des territoires de montagne, c'est pas moi que je vais apprendre, mais juste en parler de deux qui nous intéressent particulièrement. Ça va être le système de pente, le système de vallée, les distances qui sont accrues par rapport, je parle à d'autres systèmes territoires urbains, périurbains, ruraux. C'est une saisonnalité, donc la météorologie, l'ouverture des services en fonction des saisons, et les mobilités résidentielles saisonnières, c'est-à-dire que les personnes qui viennent vivre une partie de l'année dans les villages de montagne. Donc voilà comment on arrive à penser ça comme une ressource. D'abord, une ressource, c'est que sur des petits territoires de montagne, des territoires de montagne assez isolés, on se rend compte que finalement les emplois médico-sociaux, donc les emplois des aidants, des infirmiers, des aides-soignants, ça représente une part non négligeable de la vie de ces personnes, enfin de l'économie des territoires de montagne. Donc de là, on arrive à voir tout de suite que c'est finalement ces personnes âgées qui vivent dans les territoires, ça participe à faire vivre ces territoires. Ça participe à pérenniser des services commerciaux en bilan, c'est-à-dire que le boulanger qui passe finalement, quand on interroge, on se rend compte que les 3/4 de ses clients, c'est des personnes âgées qui résident sur le territoire. Et puis au final, ces personnes âgées, quand on fait des entretiens dans les villages, on se rend compte que c'est des acteurs locaux associatifs, c'est-à-dire que c'est eux, je crois, j'ai lu l'autre fois que 2/3 des maires français, c'est des retraités, et c'est des acteurs locaux, des éléments de la mémoire du patrimoine de montagne. Si je reprends du coup la même personne dont je vous parlais tout à l'heure, pour vous dire, cette personne, qui est quand même très dépendante, elle représente 1,5 équivalent temps plein d'emploi. C'est-à-dire qu'une personne dépendante sur le territoire, à elle seule, elle représente 1,5 emploi. Donc c'est quand même pas négligeable. Elle consomme uniquement dans un réseau local, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas chez elle, elle va pas faire ses courses à 15 km dans la vallée. Elle reste faire ses courses là-dessus et faire vivre par la supérette et tous les commerces ambulants qui passent. Et c'est également une personne de ressources, c'est-à-dire que elle vit dans le village depuis 84 ans maintenant, et du coup, c'est la personne que tout le monde va voir. Le notaire, quand il veut savoir à qui appartient ce bout de terrain, c'est elle qui va voir. Et c'est une grosse personne de ressources. Donc, la logique, comment répondre à la part d'autonomie? La première chose, quand on parle de perte d'autonomie, la première des réponses, c'est la réponse individuelle. Donc quand on commence à lire, on se dit on va faire moins de choses, on va arrêter d'aller courir 50 km en montagne et on va réduire notre activité. Mais après ça, quand on parle de réponse individuelle, on parle aussi de votre conjoint qui va vous aider à attraper quelque chose qui est un peu en retard. On va parler de vos enfants qui vont venir vous aider régulièrement. Ça, c'est des réponses très rapides, très individuelles qui restent dans le cercle de la cellule familiale. Ensuite, il y a les réponses collectives. C'est-à-dire ce que les petits groupes proches et informels peuvent faire. Typiquement, c'est votre voisin qui passe vous voir pour savoir si vous avez besoin de pain au moment où il va descendre dans le village le jour où il n'y a pas de pain. Voilà, c'est savoir quand il va faire les courses, s'il va passer vous voir. Et c'est tout des pratiques et des adaptations informelles à l'indépendance. Après, l'indépendance, c'est aussi une question de politique publique. C'est-à-dire qu'on a vu que c'est 334 milliards d'euros. Sur les 34 milliards d'euros, il y a 10 milliards d'euros qui sont financés par les individus eux-mêmes et 24 milliards d'euros qui sont financés par les collectivités publiques. Donc, que ce soit une compétence ou non de ces collectivités, c'est quand même un point énorme de leur politique. Ça pèse énormément sur les finances et c'est un élément très important. Là-dedans, le but de la thèse et de ce qu'on fait avec le petit groupe de recherche, c'est de se dire que l'innovation, dans toutes ces pratiques qui sont assez classiques et qui existent depuis toujours, elle se trouve bien souvent dans l'hybridation, c'est-à-dire quand on croise l'individuel, le collectif, la politique publique, et que finalement les politiques publiques innovent souvent en allant chercher les pratiques des petits groupes de voisins qui s'organisaient, ou alors en allant voir directement comment ça se passe. Alors je vais prendre quelques exemples sur lesquels on travaille, mais il y en a beaucoup plus. La première chose, c'est par exemple des exemples d'innovation issus de territoires de montagne, c'est la mutualisation des déplacements. C'est-à-dire tous les services ambulants, on se rend compte que tous ces petits services qui se déplacent, c'est un coût économique, c'est une fragilité économique, écologique très grande. Et l'idée, c'est que maintenant, on commence à voir de plus en plus dans les vallées alpines des services qui commencent à se regrouper pour pouvoir porter le pain, le journal et avoir une logique de plateforme. Plus que le service indépendant qui s'organise sur le territoire, il y a des petites plateformes qui commencent à s'organiser pour pérenniser et rendre plus durable ces services. La deuxième politique dont je voulais vous parler, c'est la politique de gestion de la dépendance qu'on trouvera en Néo-Lombardie. Donc c'est l'État sur lequel j'ai travaillé dans la vallée de Bergame à une heure à peu près de 1 an. En fait, c'est une logique assez vieille. Le système français et le système italien de gestion de la dépendance sont très très proches au niveau institutionnel. C'est-à-dire que sur le papier, c'est à peu près pareil. C'est le même type d'organisme qui organise ça et c'est à peu près la même localisation. Sauf que la culture de la dépendance est pas du tout la même. Et en fait, on est en France, dans une aide à domicile où, comme je disais, on amène les services à la personne, c'est-à-dire que c'est énormément de mobilité, et où, dans ces vallées-là italiennes, on est plutôt dans un système d'aide au domicile. Là, c'est traditionnellement, c'est les enfants qui reviennent dans la maison des parents pour pouvoir leur apporter les soins. Mais quand c'est pas possible, plusieurs collectivités en Normandie ont mis en place des systèmes où plutôt que de proposer à une personne de l'amener 11 aidants, comme tout à l'heure, à son domicile, on va payer une personne qui va venir habiter chez elle et qui va venir quand, enfin, qui va habiter chez elle et on va proposer de se regrouper à plusieurs. C'est-à-dire que si on prend le niveau de dépendance que la personne a tout à l'heure, on n'est plus à 1,5 emploi, on est à un emploi, et quand ils la regroupent, ils arrivent à passer à beaucoup moins. Et donc c'est une logique totalement différente, qui fait que quand nous on fait des cartographies pour voir le nombre de kilomètres qui sont induits par la perte d'autonomie de ces personnes et par la gestion d'autonomie, quand on est en Italie, plus la personne est dépendante, moins elle génère de kilomètres. Ce qui est totalement l'opposé du système français. Autre exemple qui est pas mal illustré ici dans le Vercors, c'est la démarche autonome aidant. Donc c'est un démonstrateur en fait d'une plateforme soignant aidant patient qui va être expérimentée à partir du mois prochain, il me semble, dans le Vercors notamment. L'idée c'est d'avoir une plateforme, d'utiliser les nouvelles technologies de l'information pour avoir une plateforme qui lie en fait les familles, les aidants, enfin tous ces aidants. Informel et les institutions avec les hôpitaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir que l'hôpital, par exemple, enfin que le médecin traitant à l'hôpital à Grenoble puisse demander, par exemple, de contrôler comment ça se passe sur la personne en appelant, à travers cette plateforme, en prenant contact avec une personne, en maison familiale proche. Voilà. Dernier petit exemple, si je parlais du champ des silver economy. Donc, les silver economy, c'est un grand chantier qui a été lancé par le gouvernement il y a déjà 3 ans, mais qui est une économie réelle. C'est-à-dire, toutes les économies qui sont générées par ces personnes âgées indépendantes. C'est-à-dire qu'on va chercher tous les services innovants, tous les outils de domotique, toutes les e-santé, et c'est tout un marché qui se développe autour de ces personnes dépendantes. C'est des initiatives individuelles, collectives, publiques, comme par exemple Autonome Adam, ou alors privées. D'accord, c'est des boîtes. Et là, on se rend compte que les territoires de montagne sont particulièrement présents dans ces systèmes de silver economy, parce que finalement, les premiers gros objets de silver, enfin d'économie numérique qui sont mis au vieillissement, ça se passe en montagne, c'est les cabinets de télémédecine qui sont installés dans les Alpes-Maritimes. Et en fait, c'est des exemples. Sur les territoires de montagne. Voilà. Pour résumer, l'enjeu de la recherche est plutôt dans l'observation de ces adaptations pour valoriser l'émergence de politiques publiques innovantes. L'idée, c'est vraiment d'aller voir comment ça se passe, comment toutes ces petites adaptations dans les territoires alpins, en faisant parler que c'est un peu les premiers signes de politiques publiques qui pourraient être appliquées après dans les villes et après autre part. En fait, on utilise la montagne comme laboratoire et comme territoire précurseur. Et juste, je sais pas où j'en suis niveau de temps, j'avais mis une petite photo de Bah, je prends juste Marit, qui est une personne pour qui me sert régulièrement quand j'en parle, pour illustrer l'importance de la question de la perte d'autonomie dans les territoires de montagne. Cette femme, elle habite dans le parc, dans la vallée de la Jouffraie. Donc à 1 heure de Grenoble, il faut dire qu'elle n'est pas descendue à Grenoble depuis 1946. C'est-à-dire que c'est le total immobilité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie de son village depuis 1982. C'est-à-dire que c'est elle qui m'a fait penser, enfin, qui nous a fait penser en premier qu'il fallait arrêter de penser les mobilités de ces personnes en se disant elles vont se déplacer, aller voir le médecin en bas, qu'elles se déplacent régulièrement, qu'il faut leur donner un taxi pour se déplacer. C'est à partir d'elle qu'on a pensé à se dire, mais en fait, il faut peut-être penser les personnes immobiles et regarder ce qui gravite autour. Et en fait, ils gravitent autour pas tant de monde que ça, et elle réagit sur le réseau très local, donc voilà, c'est sur les inspirations pour cette recherche. Je vous remercie de votre attention et.